48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine. Et voilà, on se retrouve, bonjour à tous, bonjour à toutes, en direct de la Place au Blé pour le 42e numéro du MAG de 48FM. Bonjour Nico.
Salut.
Alors Nico qui aura un double rôle aujourd'hui, à la fois d'être un peu invité et d'être contradicteur, en tous les cas.
C'est souvent, non?
Oui, un peu, c'est vrai. Au programme aujourd'hui, la saison culturelle 2013-2014 à Mende, donc avec Jean-François Béringuel.
Oh, pas lui.
Bonjour.
Voilà, et puis donc un peu Nicolas Trottoin aussi. On reçoit également Alain Rousson de l'UNSA Éducation et Laurent Croza pour l'ALUMS, l'association lausérienne pour l'urgence médicale et la permanence des soins.
Bonjour.
Bonjour.
Et donc, on va commencer avec la saison culturelle 2013-2014 à Mende.
Tiens donc.
Et oui, parce qu'en plus, voilà, on excuse d'ores et déjà Jean-François qui sera obligé de nous quitter à la fin de son intervention puisqu'il est pris par des obligations professionnelles. Et peut-être, cette saison culturelle 2013-2014, c'est un petit peu quoi l'esprit de cette saison?
L'esprit de cette saison, comme nous avons dit en ouverture, puisque nous avons ouvert avec, l'esprit de cette saison, ça a été de proposer cette année, on va dire, une saison un petit peu enlevée musicalement. Donc, comme vous pourrez constater sur le programme, on a mis l'accent à la fois sur une programmation musicale assez dense. Donc, on a ouvert la saison avec deux groupes. Le groupe collectif Chiné qui avait été déjà présent sur 48e de rue et Sing Sing My Darling. Et une saison musicale aussi parce qu'on voulait mettre en avant tout le travail fait par les associations de jeunes, on va dire, et de moins jeunes localement. Donc Va Comme Je Te Pousse et Roquefort qui nous ont prêté.
Donc on a bien compris, hein, les jeunes c'est Va Comme Je Te Pousse et les moins jeunes c'est Roquefort.
Voilà, vous avez bien compris.
Histoire de pas les coups tapines.
Les deux sont adhérents à 48
FM. Parler de genre. Hein.
De genre. Oui, de genre.
Plutôt pop rock et rock'n'roll quoi.
Des univers un peu différents dans les deux
associations. Mais complémentaires.
Oui, tout à fait. Comme vous le verrez sur la saison, musicalement, on vous propose à la fois des moments pop rock avec certains. Comme Sing Sing, 7 et Match, qui sont plutôt dans le rap, mais quand même avec des influences pas mal pop rock. Bagdad Rodeo, rock, enfin, vous avez toute une programmation assez éclectique, qui est finalement le fruit de cette collaboration entre les deux associations.
Entre plusieurs associations, puisqu'il y a eu quand même un espèce de collectif qui a été, un petit comité en fait, qui a été. Constitué, il y avait aussi dedans l'association qui a participé un petit peu.
Qui a lancé un peu les choses et puis qui se sont retirés parce que sur le Blémar, ils ont un gros festival, ça leur demande pas mal d'investissement. Donc ils nous ont un peu, on va dire, ils nous ont suivis, mais ils n'ont pas trop participé à la programmation quand même.
Voilà, pour cette année. Alors la programmation, comment ça s'est passé? Chacun est venu un petit peu avec des propositions, on a écouté ensemble, on a recherché ensemble, et puis s'est dessiné 25 à 30 artistes, groupes, qui ont fait cette première pré-programmation et qui après s'est finalisé avec bien sûr les conditions techniques d'accueil, puisqu'on est
Il y a des conditions un peu complexes cette année, du fait des travaux sur le Foirail.
C'est un peu toute la saison qui a eu un peu cet impératif-là, c'est-à-dire essayer de jongler avec les travaux sur le Foirail. Donc ça a été à la fois des craintes de notre part, parce que c'est quand même assez incertain. Quand on commence, on sait toujours ce qu'on commence, mais jamais ce qu'on va trouver, donc avec les retards, ainsi de suite.
Et puis aussi l'ampleur des travaux qui pourrait être une gêne à l'installation technique, donc à l'accès au théâtre, et parce que ça ne peut pas se faire par le bas, et ça ne peut se faire que par le haut, pour déchargement, chargement. Et puis aussi les vibrations, et puis les murs de soutènement, et puis donc toutes ces incertitudes, comme on fait la programmation quand même 6 mois à l'avance, on ne peut pas se permettre d'hypothéquer l'avenue d'une compagnie ou d'un artiste. Donc on a dit d'entrée, le plus simple c'est de faire beaucoup plus de choses à l'espace des anges, faire des choses peut-être de moins grandes factures comme ce qu'on a pu accueillir, ou des gros groupes. Donc il en reste un petit peu, mais c'est vrai qu'on a, on a quand même sur la saison 38 spectacles, 38 représentations de spectacles,
plus les représentations scolaires.
Donc ça fait quand même une grosse programmation sur l'année. Alors c'est vrai que tout le monde ne pourra pas voir tous les spectacles, puisqu'on a des jauges réduites sur l'espace des anges.
Bah oui.
Alors en formule concert, ce qu'on a démarré avec l'ouverture, avec
Formule debout.
Voilà, formule debout, on a quand même 200 places debout. Donc c'est une jauge quand même qui est sympathique, correct, ouais. Voilà, qui est correcte. C'est pas la jauge du théâtre, certes, mais on remplit jamais à 900 000 places le théâtre, donc c'est très rare.
À part sur
très,
des
très
grosses
rare,
têtes d'affiche comme Zebda l'année dernière.
Voilà, mais c'est parce qu'on a cette année.
Voilà, ou Big Arangs peut-être cette année. Qui...
Mais donc, si j'ai bien retenu l'interview de Jean-François dans les infos de 48FM, c'est pas parce que c'est des petites formes à l'espace des Ganges que c'est de la moins bonne qualité et que c'est des propositions artistiques de moindre niveau.
L'exigence
artistique est toujours la même depuis qu'on met en œuvre cette programmation depuis 2008. On a toujours tapé dans le haut du panier, comme on dit, et puis toujours des découvertes, des choses insolites, des partenariats qui sont très très multiples, hein, Jean-François.
Oui, tout à fait. Bon, on en reparlera. Bon, pour terminer un petit peu sur la saison musicale, on a faire le lien avec les partenariats. À cette saison pop-rock et rock, on ajoute aussi quand même une saison d'opéra que nous proposons depuis, avec des sorties opéra, avec la venue dès ce week-end de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier. Donc vous voyez, une saison musicale qui quand même va toucher tous les publics.
Ouais, comme sur 48FM, un peu de tous les styles.
Un peu de tous les styles.
Ouais, tous les styles, et puis qui s'adresse à peu près tous les âges. L'objectif, bon, c'est vrai qu'on touchait un petit peu moins les jeunes. Alors, c'était un projet qu'on avait depuis 3-4 ans déjà, d'avoir une programmation plus ciblée vers les jeunes. On avait fait un partenariat avec l'Espace des Jeunes sur la ville, qui s'est mis un peu en œuvre, mais pas plus que ça. Voilà, parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande des compétences et ça demande un encadrement aussi. Donc, c'est pas forcément le bon outil. C'est quand même fait pour les jeunes. Là, on a eu la belle surprise, en fait, d'avoir ces deux associations qui se sont bien emparées du projet et qui ont fait une ouverture de saison avec Sing Sing, plus le collectif chinois, avec on a eu plus de 250 personnes qui sont passées. Donc, on peut dire que c'est bien lancé. Maintenant, il faut tenir la barre, quoi, et puis faire en sorte que ces jeunes reviennent. Quand ils ont découvert la programmation, ils ont vu, bon, 7 matchs, je pense, à faire un carton, parce qu'on a déjà énormément de jeunes qui nous ont dit « Ah, vous faites venir 7 matchs, c'est génial !» Big Arons aussi, enfin, on a beaucoup de groupes, je pense, qui vont faire venir du monde. L'idée, c'est vraiment que ça s'adresse à cette tranche d'âge qui n'avait pas, sûrement, en tout cas, de vrai espace pour faire ce genre de soirée, avec une ouverture sur une petite cour, des concerts debout. Donc, je pense que la formule est très adaptée et qu'elle devrait trouver son public.
Bon, alors, quel grand rendez-vous dans cette édition 2013-2014 de la saison ?
Sur la programmation musicale ou sur la saison ?
Sur la saison, sur en la entier. Saison.
Bah, déjà, la saison, c'est une multitude de choses. C'est à la fois de la musique, c'est du théâtre, c'est de l'humour, c'est de la danse, c'est un travail avec les partenaires sur des formes, on va dire, un peu particulière avec les soirées singulières. Donc, me demander mes coups de cœur, c'est toujours un peu délicat. Parce que
vas-y, Jean-François, tes coups de cœur, c'est quoi tes coups de cœur ?
Mes coups de cœur.
Fais-nous battre.
Au moins pour le premier trimestre, on vous réinvitera pour parler peut-être de la suite.
Au moins pour le premier trimestre, donc déjà, le premier spectacle que je conseillerais, c'est parce que c'est une forme un peu particulière. C'est Fable, le 15 octobre, je crois, le mardi 15 octobre, avec là aussi une séance proposée pour les scolaires.
Ouais, collège, ouais.
Voilà, c'est une compagnie que nous connaissons, que nous avions accueillie ici avec
Tabula Rasa.
Voilà, avec Lavar. Voilà.
Forme marionnettique un peu décalée, avec des robinets. Voilà.
C'est une compagnie barcelonaise, mais avec un local qui est de Marvejol. Un gars que j'ai connu, il était élève au lycée, il faisait déjà du théâtre et il s'est installé sur Barcelone, il a repris la compagnie Tabula Rasa et là il nous fait une sur les fables de La Fontaine, il nous fait une interprétation assez on va dire assez particulière, assez décalée, très très belle, très poétique.
Et Olivier Benoît.
Olivier Benoît.
Voilà, qui habite, qui a de la famille sur Marvejol et voilà, qui va voir sa famille en même temps qu'il vient, donc c'est bien.
Bon, alors, allez, un autre coup de cœur, peut-être Nico.
Ah, moi,
sur ce premier trimestre.
Alors, bon, on va avoir le même le 10 décembre et le 17 décembre.
Oui, c'est deux belles, deux beaux travaux. Bon, un qui s'appelle It's So Nice d'une compagnie belge. Nous, vous savez qu'on aime beaucoup les Belges, alors, pas seulement par leur activité culinaire très connue, ouais. Mais plus pour leur travail théâtral qui est souvent très engagé, très particulier, assez barré, comme
très libre.
Voilà, très libre, qui se permettent. Donc là, c'est une conférence décalée sur l'histoire d'Elisabeth Ier et de Marie Stuart, enfin de leur correspondance, et comment ces deux femmes, qui étaient des grandes figures de la politique à l'époque, se sont affrontées, respectées, et qui, donc, c'est quand même Elisabeth Ier qui gagne, hein, et puis qui fait tuer dans un cachot de façon immonde Marie Stuart. Mais dans cette relation, donc, elle dépeint ces deux personnages, à la fois sous la forme de parties dansées, vidéos, etc., avec un humour terrible. Donc, c'est une grande, grande intelligence, avec ces finesses de jeu qu'ont les femmes, parce que ça aurait été difficile d'être joué par des hommes, voilà. Ou alors ça aurait été encore plus décalé. Voilà, c'est très intelligent sur la mise en scène, c'est une vraie belle découverte. Nous, on a vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce spectacle qu'on a vu en Avignon, au Théâtre des Dômes. Hein,
l'année dernière, été 2000.
L'espace belge théâtral, voilà. L'autre forme, c'est théâtre d'humour qu'on a vu en rue à Chalon dans la rue.
Eliane.
Voilà. Eliane, qui est cinq personnages féminins revisités. Donc c'est cinq comédiennes hors pair de la région de Croussillon qui vont interpréter toutes sortes de situations assez complexes et de représentations. Donc pour parler du spectacle en tant que tel, il n'y a pas un fil conducteur, mais c'est fait sous la forme de tableaux qui sont époustouflants.
Voilà. Cinq portraits de femmes. Bon.
Avec une histoire personnelle à l'intérieur qu'on découvre qu'à la fin, donc on ne peut pas vous en parler, mais sinon, c'est vraiment un grand moment de théâtre avec cette jeune femme donc, qui est la comédienne, hein, qui est Jackie Starr, qui était déjà venue dans un spectacle dans le cadre de 48e de rue, qu'on avait proposé donc, à la Chicanette.
Éloge de la beauté, non ?
Éloge de la beauté, voilà, avec Jackie Starr, qui avait un peu défrayé la chronique parce que c'est un spectacle qui remue nous les hommes un peu, mais... Mais je pense que beaucoup de femmes se retrouveront à travers ce spectacle-là. Donc voilà, deux belles performances d'actrices, d'acteurs, et puis en même temps deux spectacles qui lient à la fois humour, mise en scène, esthétisme. Voilà.
Alors Jean-François, tu parlais de partenaires et de soirées singulières.
Ben, partenariat, nous avons toujours des partenariats très importants avec... les scènes croisées de Lausanne, donc qui cette année encore se sont engagées avec nous sur les soirées singulières. Donc la première soirée singulière qui a lieu le 9 et le 10 octobre, pardon, post-disaster dance party. Donc c'est l'esprit des soirées, ouais, de la danse.
Mais c'est un mouvement aussi, la post-disaster.
Voilà, la post-disaster, c'était un mouvement aux États-Unis. Monsieur Croza doit le savoir, puisqu'il a beaucoup voyagé.
On a fait quelques séjours. Oui.
Voilà, c'était un mouvement dans les quartiers latinos. Et voilà, c'est une danse un peu à la limite de la trance, on va dire. Et là, c'est une post-disaster, mais qui n'est pas vraiment c'est une vraie fausse post-disaster. Le 9 et le 10, parce que c'était important de le faire à ce moment-là, parce que c'est la rentrée de l'IUP. C'était un petit peu le moment de... Et c'était là aussi une façon aussi de toucher ce public qu'on a du mal à toucher.
Ouais, ça reste fermé, l'IUP.
Ouais, c'est pas trop... Ouais, à la fois à cause des emplois du temps qui sont chargés...
Mais je suis sûr que tu es là pour apporter cette bonne influence latine... hein, que tu nous as enseigné.
Ouais. Voilà. Je ne voulais pas le dire. Mais...
Bien.
Voilà, post-disaster, puis d'autres soirées singulières tout au long de l'année avec.
Puis le partenariat avec aussi la DOC cette année qui revient avec un colloque très important sur les langues régionales.
Alain Plantet nous en a parlé au Forum des associations.
Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un colloque qui est très important parce que c'est assez unique en Europe, ce genre de colloque, d'un très très bon niveau, de très très bonne facture. Et en complément de cet événement, donc il avait proposé, et la ville était d'accord pour soutenir cet événement, sous la forme d'un spectacle, Nadao, bon, qu'on ne présente plus, qui est très connu.
Pas des jeunes nouveaux, quoi.
Pas des jeunes nouveaux, mais...
Ils ont leur public, c'est clair.
Qui a fait pas mal d'Olympiades, des Zéniths, etc., qui sont connus en France et dans l'Europe, et qui vont mettre un peu le feu au théâtre municipal. Donc, il nous semblait aussi important de soutenir des initiatives locales, parce qu'on en a besoin, et puis que ça donne du sens aussi à la programmation.
Bien, je crois que ça nous a déjà mis un petit peu en haleine sur ce contenu. Peut-être passer à des détails pratiques, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur la suite de la programmation un peu plus tard dans l'année, parce que sinon on pourrait parler de beaucoup de choses, mais ça va. Peut-être les abonnements, comment ça fonctionne.
Déjà préciser que c'est une volonté politique de notre part. Déjà préciser que cette année les tarifs n'ont pas augmenté, donc. Pour la troisième année consécutive, nous proposons des tarifs, les mêmes tarifs. Bon, c'est une volonté pour permettre, on va dire, des tarifs préférentiels pour permettre au plus de gens possible de fréquenter notre saison. Donc
deux tarifs, un plein tarif à 12 euros hein, et puis un tarif réduit
à 8 euros.
À 8 euros. Alors le tarif réduit, il concerne les abonnés, bien sûr, les jeunes de moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi et les groupes à partir de 10 personnes. Ça, ce sont les tarifs cœur de Lozère.
Les habitants de la communauté de communes.
Voilà, la communauté de communes, on l'a ouvert. Après, pour ceux qui viennent de l'extérieur, donc le tarif passe à 14 euros pour le plein tarif et un tarif réduit à 10 euros. Avec deux formules, une formule de 4 spectacles qui est très intéressante.
40 euros.
40 euros, donc on a quand même quasiment tous les spectacles, excepté les sorties opéra et les spectacles familiaux. Donc 4 spectacles pour 40 euros, 4 spectacles pour 48 euros si on est en dehors de la commune. Donc ça fait 12 euros la place, ça reste très raisonnable. Et après, les spectacles familiaux, donc on parlait de fables tout à l'heure, en fait partie. L'Instanka d'Arumai, cirque, donc, voilà aussi. Amour et jambes cassées du théâtre familial aussi, extraordinaire pièce de théâtre jouée par 4 comédiens hors pair.
Des Belges.
Des Belges, toujours. Sud Nuage Noir, une compagnie portugaise qui nous a fait une création magnifique qu'on a vue l'année dernière aussi. Et puis Quack, Annabelle Bly. Donc tout ça pour un tarif unique à 5 euros, qu'on soit adulte, enfant. voilà, un prix d'appel qui est très très intéressant. Moins cher qu'une passe de cinéma, le mentionner.
Et ensuite, les sorties opéra, juste si tu permets, les sorties opéra, puisque nous proposons, donc, je vous disais tout à l'heure, des sorties opéra, mais là, les tarifs nous sont imposés par l'opéra. Hein, c'est tarifs, on va dire, par opéra, 55 euros, mais nous sommes en première. Hein, donc là, la ville prend en charge le transport et les visites culturelles de la journée, puisque c'est sous forme de journée complète. Donc nous partons le matin à 7h30 du Foirail, arrivés vers 10h30 à Montpellier. Là, nous avons des visites, ensuite un moment de libre, et puis le soir, l'opéra, et retour sur Mende vers 21h30.
Alors peut-être dire que sur une des sorties opéra qui aura lieu normalement le 30 mars, je crois, il y aura juste le fait que les gens devront penser qu'il y a les élections, donc d'aller voter ce jour-là, alors, ou de faire une procuration, ou d'aller voter très tôt, mais je crois que vous partez à 8h.
7h30,
donc là, il faudra peut-être penser à...
Ben là, je ne pourrais pas partir, alors. Voilà. J'avais oublié. C'est vrai, j'avais oublié. Je te remercie, Nico, parce que je vais être absent.
Non, mais bon, il faut gérer, hein, quand même.
Derrière. Est-ce que tu es sûr des dates, le 30 mars, tu crois que c'est... Les...
Voilà, ah, ça se chuchoter. Ouais,
c'est le 23 et le 30, voilà. Les deux dates ont été posées là récemment, donc c'est vrai qu'on va en tenir compte. Alors quand on a fait la proposition, ben, nous on est tributaires hein, aussi, il faut le dire, des propositions faites par, l'opéra de Montpellier.
Ouais.
Donc on n'a pas beaucoup de choix non plus dans la saison, donc on est obligé de caler comme ça. Mais bon, il faudra redire aux gens, voilà, ceux qui veulent, qui avaient prévu d'aller voter, de se prémunir de ça. Quoi.
Pas beaucoup le choix, tout simplement, parce qu'on fait le choix souvent des opéras le samedi et le dimanche. Mm. Et beaucoup d'œuvres sont présentées en semaine, donc pour nous, c'est impossible. Quoi. Enfin, si on veut faire quelque chose de décent, on va dire, pour nos abonnés, on ne peut pas partir en semaine à 6h du soir et rentrer à 5h du matin. Quoi.
Bien alors, comme il va falloir qu'on termine cette première partie, on retrouve le programme
à l'office de tourisme,
bien sûr, et puis
pratiquement dans tous les commerces.
Voilà. Et donc, pour la réservation des places, c'est auprès de l'office de tourisme, les abonnements aussi auprès de l'office de tourisme. Et puis, bah, donc, prochain spectacle.
L'Orchestre Montpellier ce week-end, samedi 16h.
Et après, Kyriakos. Voilà.
Voilà. Réservation conseillée tout de même.
Très bien. Et sachant que sur le programme, vous avez toutes les dates, le détail, une petite illustration. Je n'avais pas compris la logique du CD au départ. Et puis hier, ça m'est arrivé comme une fulgurance sur mon canapé. Donc ça m'est arrivé.
À force de compulsion, on comprend. On comprend qu'il y a. C'est vachement réfléchi en fait derrière.
Il y a les âges qui sont rappelés à chaque fois
pour
bien préciser à partir de quel âge tout ça est possible.
Il faut prendre le temps de le lire. C'est vrai qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 38 spectacles plus le jeune public, plus les expositions, plus les sorties. Donc ça fait un beau petit livret. Prenez le temps de le découvrir.
Et puis on aura l'occasion sur 48 FM de revenir en détail sur la suite.
Parce que je pense qu'il y a des choses importantes à dire.
Voilà, mais on parlera sans doute de Emlyr quand ça sera la saison.
De notre action au jeune public, parce que c'est quand même une action que nous menons depuis maintenant 5 ans, 6 ans, et parce que c'est quand même une proposition à la fois, une proposition d'un partenaire qui est la Ligue de l'enseignement, donc Monsieur Nicolas Trottoing en face
encore
de moi.
Lui, quand il est partout lui. Ce type.
Mais c'est quand même aussi derrière ça, parce que là, on s'en tient uniquement au spectacle, donc à la saison, mais en fait, ça fait quand même partie d'une action de fond. Et ça, c'est la petite passerelle qui va vous permettre de passer tout de suite à l'éducation. Cette année qui prend une importance toute particulière avec les rythmes scolaires. Et tout ce travail qui est fait auprès des écoles, je pense que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Non, mais petit à petit, ça va prendre une vraie cohérence. Et je pense que c'est quand même des spectacles que nous offrons avec tout un travail de médiation, un travail sur les spectacles qui est fait. Donc,
avec un livret aussi.
Un livret, le livret du spectateur.
Du jeune spectateur.
Voilà. Donc ça mériterait peut-être qu'on en parle un jour.
On en parlera, c'est promis, dans un prochain numéro.
Juste peut-être inviter la Ligue de l'enseignement pour en parler.
Il a invité toutes les semaines. Bien, on va se retrouver après une première coupure musicale. Merci Jean-François.
Merci Jean-François.
Et la coupure, de rien Nicolas.
La coupure musicale, c'est Émilie Loiseau, Je suis jalouse.
À bientôt.
Émilie Loiseau, c'est quand vous voulez la programmer.
J'ai encore pleuré 2 heures sur ta boîte de petit beurre, la fameuse avec les lettres, les photos de New Hampshire, ton voyage en amoureux avec Adèle de Bayeux. Je trouve son nom ridicule, on dirait une marque de pull. Elle voudrait me rencontrer, nous avoir pour déjeuner. C'est sûr, elle va m'adorer et elle a tellement insisté. Oui, mais je suis jalouse. Oui, c'est ça, tout simplement jalouse. Je suis jalouse. Je mange toute seule au chinois, c'est pratique, c'est juste en bas. Je t'ai laissé y aller tout seul, maintenant je m'en mords les doigts. Tu m'as dit c'est trop dommage, elle fait si bien la cuisine. Je lui ferai bien mon potage en la nitroglycérine. La bile et le glutamate se chamaillent dans ma rate. Je me dis ça à chaque fois, je ne mangerai plus chinois. Oh, oui, je suis jalouse. Oui, c'est ça tout simplement. Jalouse. veut te revoir, elle est libre plutôt le soir. Te parler de temps en temps, sourions, serrons les dents. C'est vrai, c'est assez normal, je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne vais pas faire un scandale, pour vous deux c'est important. Mais c'est l'arbre ma jalousie, de ne pas savoir te dire oui, ça me fait un peu bizarre.
FM Le Mag.
Et on se retrouve pour cette deuxième partie du Mag sur 48FM en direct, comme tous les mardis. Ça y est, on est reparti. Et donc, on va parler maintenant éducation avec l'UNSA et donc Alain Rousson. Alors, déjà, première actualité. C'est une enquête qui s'appelle « Mon métier, mon avis », c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est une enquête que notre organisation a lancée au niveau national, donc l'UNSA Éducation, au mois de, entre la mi-mai et la mi-juin. Alors, c'est pas forcément la période la plus favorable dans l'éducation nationale, parce que c'est souvent la période, bon, cette fin, la fin d'année scolaire, bon, des mutations et d'un certain nombre de choses. Mais c'est une enquête qui a recueilli un peu plus de 16 000 réponses, 16 333 exactement, en un mois, ce qui n'est pas négligeable, et qui recoupe tout le champ des métiers de l'éducation, parce qu'on parle souvent éducation nationale, mais ça englobe aussi l'enseignement supérieur et la recherche, ça englobe aussi l'enseignement agricole, ça englobe aussi la jeunesse, les sports et l'éducation populaire. Donc il y a un panel, dans les réponses, un panel de personnes qui représentent tous les corps de métiers au travers de ces différents secteurs.
Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort de cette étude ?
Il en ressort un certain nombre. Alors, c'est une étude qui a été donc faite pour la première fois cette année et que nous ferons régulièrement chaque année de façon à vérifier si les choses ont évolué dans certains secteurs, comme le problème financier, etc. Donc, ce qu'il en ressort, c'est que globalement, les personnels qui ont répondu aiment leur métier à 94%. Donc, c'est quelque chose de très important. Sont heureux de l'exercer à 84%, trouvent que leur mission a du sens à 82%. Par contre, il y a d'autres aspects où, effectivement, les questions posées recueillent davantage d'avis défavorables que d'avis positifs, notamment en ce qui concerne la reconnaissance et le respect de la profession, et aussi les conditions de travail que les personnels jugent non satisfaisantes à 57%. Voilà, globalement, les principales choses que l'on peut retenir de cette enquête.
Les conditions de travail, ça concerne le rapport à l'administration, mais aussi les locaux.
Oui, c'est l'ensemble des conditions de travail. Parce qu'il faut savoir, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette enquête, on a répondu... Alors, dans l'éducation nationale, la très grande majorité, c'est bien sûr, ce sont des enseignants. Mais il n'y a pas que des enseignants. Il y a aussi des chefs d'établissement dans le second degré, des personnels administratifs, des personnels de santé, les infirmières, les médecins scolaires, les assistantes sociales, etc. Il y a aussi, même si ce ne sont plus des personnels de l'éducation nationale, il y a aussi les agents qui relèvent des collectivités, que ce soit le conseil général ou le conseil régional. Donc c'est l'ensemble des personnels.
Alors, et les communes aussi.
Oui, pour les ATSEM, etc. Oui. Mais donc il faut savoir aussi qu'effectivement, après, si on sort des grandes orientations, en fonction du personnel qui a répondu, les appréciations peuvent différer un petit peu, ça c'est évident. Un chef d'établissement ne va pas forcément percevoir ses conditions de travail comme peuvent les percevoir un enseignant ou un personnel administratif.
Bien, alors, ça c'est donc une enquête nationale. Et si on se projette peut-être maintenant en Lozère, comment se passe cette rentrée ? du point de vue de, donc, du syndicat UNSA Éducation.
Bah alors, disons que nous, on aurait pu donner comme appréciation au ministre, c'est-à-dire au nouveau. Bon, il est tout à fait nouveau parce qu'il est maintenant en fonction depuis quelque temps. Mais on aurait pu dire, bon, bien, mais peut mieux faire. Alors, c'est vrai que c'est une rentrée scolaire qui est la première qui a été totalement préparée par ce nouveau gouvernement, puisque la rentrée 2012 l'avait été en très grande partie par le gouvernement précédent. Donc, on a noté un certain nombre d'éléments positifs dans le sens où, par exemple, il n'y a pas eu de suppression d'emplois cette année, mais plutôt des créations. Alors, certes, dans notre département, ça a plutôt été modeste, parce que ça s'est limité essentiellement à donc, un équivalent temps plein au niveau des écoles et deux équivalents temps plein au niveau des collèges, sachant qu'en lycée, c'était plutôt compte tenu notamment de la baisse des effectifs, encore malheureusement des suppressions d'emplois. Et puis, l'arrivée dans le département d'un certain nombre de contrats aidés. Alors certes, ce sont des contrats aidés, donc précaires. Ce n'est pas forcément toujours très satisfaisant pour nous, mais c'est quand même des moyens qui répondent à des besoins. Et notamment, bon, au niveau, dans le premier degré, de l'aide administrative à la direction d'école, puisqu'on on avait 7 emplois jusqu'à maintenant, sachant qu'on en avait beaucoup perdu les dernières années, puisqu'on était passé de 60 en 2 ans à 7. Donc, oui. On peut mesurer l'écart est extrêmement important, et donc la perte d'emploi. Donc on repasse de 7 à 15. Alors certes, ce n'est pas satisfaisant, totalement satisfaisant, mais c'est un plus quand même, notamment que ces emplois-là, sont consacrés notamment aux écoles à 3 classes. C'est quand même un nombre d'écoles non négligeable dans le département. Et c'était aussi une de nos revendications au niveau local, et qui a été entendue par la directrice académique des services. C'est-à-dire que ces supports-là, nous, on souhaitait ces emplois-là qu'ils soient donnés prioritairement aux écoles pour lesquelles les directrices et les directeurs d'école n'avaient aucune aide. Parce qu'il faut savoir qu'en fonction du nombre de classes, il y a certaines écoles qui bénéficient déjà d'une décharge administrative, occupée celle-là par un personnel titulaire de l'éducation nationale. Alors ça peut être un quart-temps, mi-temps, un temps complet. Il y a quelques écoles dans le département qui ont un temps complet. Et puis, il y avait aussi,
classe, ouais.
Voilà. Et puis il y avait aussi donc, un certain nombre d'emplois consacrés à l'aide administrative, occupés par bon, des personnes qui ne sont pas titulaires, bien évidemment. Et donc nous souhaitions que bénéficient de ces emplois nouveaux en priorité les écoles qui n'avaient jusqu'ici aucune aide, quelle qu'elle soit. Voilà. Et de ce point de vue-là, nous avons été entendus par la DASEN, donc nous sommes plutôt satisfaits. Bon, il y a un effort encore à faire parce que les écoles de la 3 classe sont pour la très grande majorité donc concernées cette année, puisque sauf erreur de ma part, il y en a 10 sur 13, mais il ne faut pas oublier les écoles de classe, etc. Alors c'est vrai que c'est plus difficile à mettre en place, parce que je ne vais pas employer un mot qu'on a beaucoup de difficultés à employer dans l'éducation nationale, qui est celui de rentabilité, mais on peut comprendre que après, si on doit fractionner les postes, compte tenu du fait que les écoles sont assez dispersées sur le département, ça va devenir tout de suite beaucoup moins facile à gérer. Ça, on peut le comprendre. Donc, la solution qui a été choisie nous convient assez.
Bien, alors après, peut-être aussi un des grands changements de cette rentrée, c'est la réforme des rythmes scolaires qui se met en place dans 4 communes en Lozère, hein, si je ne me trompe pas.
C'est Badaroux, Mende, Ispagnac et Vialas. Donc, alors, qui concerne 10 écoles, puisqu'il y en a 7 sur Mende, une sur Badaroux, une sur Vialas et une sur Ispagnac, sachant qu'à Ispagnac, l'école privée a aussi fait le choix de
basculer.
De basculer, oui.
Sur les recommandations du maire.
Oui, et contre la volonté de la hiérarchie de l'enseignement catholique.
Oui, qui n'avait pas envie d'y aller.
Mais pour, j'imagine pour justement les actions qui pouvaient être mises en place à côté, pour qu'elles soient aussi peut-être mutualisées.
Bah pour des cohérences aussi dans le marchage scolaire, etc. Et oui, parce voilà. Que c'est vrai qu'il y a cette refondation... Enfin, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est vrai qu'on parle de la réforme des rythmes scolaires, mais il faudrait quand même en parler de la refondation de l'école, hein, la loi de refondation de l'école, qui est une loi qui ne comporte pas que la réforme des rythmes scolaires. Il y a 24 points dans cette loi. Moi, j'ai fait un petit sondage autour de moi, auprès des enseignants que je connais. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé un enseignant qui l'ait lu. C'est-à-dire que autant ils ont une information parcelle, souvent médiatique, par des médias interposés sur qu'est-ce que va devenir leur métier, comment se réorganise l'école, quelle est cette fameuse loi de refondation. Et en fait, ils n'ont retenu qu'un seul élément, c'est la réforme des rythmes scolaires et le travail du mercredi matin. Et je trouve que c'est quand même super dommage en France, mais c'est pas vrai que dans le corps enseignant, c'est vrai en général dans tous les métiers. Les professionnels de ces métiers, en fait, découvrent très très peu l'ensemble des lois qui leur sont dédiées. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Alors, je ne sais pas si c'est le rôle des syndicats forcément de faire ce travail pédagogique auprès de leurs enseignants. Est-ce que c'est... alors, on dit souvent « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais je trouve que c'est super dommage. Bah, moi, j'ai pris le temps de lire cette loi. J'ai étudié les différents points. On n'est pas forcément d'accord avec tout, hein, et c'est normal. Je pense quand même que derrière, il y a une vraie réflexion politique, que depuis une trentaine d'années, pas beaucoup de ministres se sont attelés à ces tâches et ont une vision aussi large, aussi réfléchie, avec beaucoup de points de réforme qui vont accompagner l'école. Et on n'en est qu'aux prémices, puisqu'on démarre avec les maternelles et les primaires, mais vient derrière la réforme des collèges, la réforme des lycées, la réforme des universités. Il y a énormément de choses qui est au crédit aujourd'hui de ce gouvernement, qui est très peu entendu, je trouve, par la base des gens qui vont être concernés demain, les enseignants, pour comprendre le fond, pour comprendre où ils vont. Et aussi pour dire, peut-être effectivement qu'on n'est pas forcément d'accord avec l'ensemble des points de cette loi. Mais en tout cas, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne renseigne pas suffisamment et que personne ne fait, que beaucoup font l'économie d'étudier cette loi qui les concerne, quoi.
Bon, alors, quelques points de pédagogie sur cette loi.
Juste pour dire que je partage tout à fait ce que vient de dire Nicolas. Bon, c'est vrai qu'on peut regretter que l'année dernière, par exemple, la refondation de l'école se soit limitée, effectivement. Alors, les médias ont joué leur part, je pense, là-dedans, mais pas que, je pense. C'est vrai qu'on a beaucoup, énormément même, parlé de la réforme des rythmes scolaires. Or, comme l'a dit Nicolas, les chantiers qui sont ouverts recouvrent tous les aspects de l'éducation. Ça part de la formation initiale avec la mise en place des SP, des nouvelles écoles, etc.
Les écoles supérieures, professeurs et de l'éducation, c'est dans lequel on a quand même, il faut le dire, pendant 15 ans, déstructuré complètement la formation de ces enseignants qui doit être la plus proche de celle d'un ingénieurat de la pédagogie. On a oublié la pédagogie au profit des diplômes et au profit de la production directe et d'envoyer des jeunes comme ça au casse-pipe dans des quartiers difficiles qui sont écœurés et qui l'écrivent aujourd'hui,
oui, tout à fait.
Hein, qui ont fait beaucoup de bouquins.
D'ailleurs, on parlait de l'enquête tout à l'heure. Quand on affine et qu'on regarde, par exemple, ce que pensent les jeunes collègues, c'est vrai que le désenchantement, il est plus important chez les jeunes collègues que chez les collègues qui ont une certaine ancienneté. Ça, c'est évident. Ça ressort dans l'enquête. Hein.
Et que 84% des collègues qui ont de l'expérience, plus de 20 ans ou 25 ans d'expérience, se retrouvent dans des zones, on va dire, entre guillemets, assez confortables par rapport aux jeunes collègues qui vont dans des zones difficiles d'éducation. Et ça, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas faire l'économie de ça. Donc, reparler des écoles supérieures du professorat... Moi, je pense que faire du diplôme d'enseignant aujourd'hui l'équivalent d'un diplôme d'ingénieur de la pédagogie, ce serait pas... à la fois, c'est pas idiot, et à la fois, c'est exactement ce dont on a besoin. De l'ingénierie pour mettre en œuvre des programmes, pour mettre en œuvre des stratégies pédagogiques. Et c'est ce que les enseignants, les trois quarts, réclament, ces formations sur des outils, alors pas des recettes, mais sur des stratégies par rapport à des enfants en difficulté ou à des parents, à des familles. Et aussi par rapport au programme. Donc un autre aspect, par exemple, c'est la refonte, donc je crois que vous en parlez aussi, la refonte des programmes.
Tout à fait. C'est un chantier qui s'ouvre à cette rentrée scolaire, donc dans le primaire. C'est d'ailleurs une initiative qui va permettre aux enseignants de s'exprimer sur le sujet, puisqu'il devrait y avoir au moins une demi-journée banalisée, si ce n'est une journée complète, je ne me souviens plus. Mais c'est... Donc effectivement, ça va permettre aux enseignants du terrain de s'emparer du problème, et effectivement de s'exprimer sur ce sujet-là, sachant que pour nous, d'ailleurs on l'avait dit dès le début, par rapport à la réforme des rythmes scolaires, ce qui a été fait, c'est effectivement intéressant, mais on ne peut pas faire l'économie quand on parle de réforme des rythmes. Bon, on parle de la réforme de la journée, voire de la semaine, mais il faut penser aussi année scolaire, il faut penser aussi programme, parce qu'on ne peut pas continuer à demander aux enseignants de respecter un programme qui a été établi il y a des années et des années, alors que par ailleurs, on leur demande de faire d'autres choses, ce qui est normal d'ailleurs. L'école avec ne peut pas vivre à l'extérieur de la société. Il faut que l'école s'ouvre sur la société, et forcément, en s'ouvrant sur la société, elle va faire d'autres choses, mais elle ne pourra pas continuer avec un nombre d'heures qui diminue, malgré tout, globalement, continuer à essayer de respecter des programmes qui voilà, respecter des programmes qui ont été faits il y a des années et dans un autre cadre, voilà.
Alors des programmes, c'est vrai, extrêmement lourds. On le voit par exemple sur au niveau européen, des programmes qui sont souvent moins lourds dans d'autres pays d'Europe, avec plus de jours d'enseignement. 180 jours à peu près, ou 184 jours dans les pays européens en moyenne, nous sommes à 144 jours.
Tout à fait.
La volonté, enfin moi quand j'ai lu cette loi, c'est aussi de raccourcir le temps des vacances, de mieux rééquilibrer sur l'année, puisqu'on sait que en termes de pédagogie, c'est la répétition et la présence, et de l'échelonner sur des durées beaucoup plus longues, et que ce soit moins lourd par jour, et même les enseignants. Alors il y a aussi la problématique du collège et du primaire, c'est-à-dire comment un enseignant primaire qui lui doit faire quasiment toutes les matières, un an après, l'enfant qui se retrouve en sixième a des enseignants quasiment par matière. Est-ce que ça se justifie aujourd'hui, cette cohérence-là entre un enseignant qui fait 24 heures, un autre qui fait 18 heures? Il y a toutes ces questions auxquelles on n'a pas voulu répondre pendant 15 ans, auxquelles on a essayé de trouver des solutions parfois financière, mais on n'a jamais traité le problème à la fois des conditions de travail, ce dont vous parlez aujourd'hui, des conditions de formation, et puis les conditions aussi des enfants, c'est-à-dire le parcours d'un enfant qui part de la maternelle et qui arrive au lycée, tout au moins. C'est ça ce dont on parle aujourd'hui, c'est comment on structure l'éducation de nos enfants, la pédagogie qu'on leur assigne, et cette continuité de la maternelle en passant en primaire, collège et lycée. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des difficultés et que personne n'a trouvé les solutions. Alors aujourd'hui, les solutions, je ne sais pas si ce ministre les a trouvées. En tout cas, il y réfléchit, il y a une espèce de cohérence. Et moi, j'invite tout le monde à lire au moins la loi pour se faire une idée. Pas forcément pour être d'accord, mais se faire une idée.
Non, parce que comme dans tout projet, Nicolas le disait tout à l'heure, il y a effectivement un certain nombre de choses intéressantes. Pour nous, c'est majoritairement, il y a des choses intéressantes. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments sur lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord ou pour lesquels il y a des améliorations nécessaires. Mais globalement, ce projet, pour nous, c'est quand même le retour de la priorité à l'éducation nationale. Sans perdre de vue, pour nous aussi, c'est que c'est quand même l'enfant qu'il faut mettre au centre. Hein. C'est dans l'intérêt de l'enfant d'abord. Hein. Nous, on est là aussi pour défendre le côté salarié et personnel. Mais pour nous, le point de vue, c'est d'abord l'intérêt de l'enfant. Enfin, quand je dis l'enfant, c'est à tous les âges. Hein, donc, voilà. Et parfois, malheureusement, je dois le dire aussi, on a l'impression que cet intérêt de l'enfant, on l'a, comme disait Nicolas, un petit peu oublié.
On l'a oublié, mais aussi, il faut dire que ce ne sont pas les enseignants qui l'ont oublié. C'est-à-dire que beaucoup d'enseignants font les choses par intérêt de l'enfant et sont des fois en porte-à-faux vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'ils voient bien que ça ne fonctionne pas, quoi, que dans les écoles... alors nous, ce n'est pas un problème d'effectif, mais c'est plus un problème de contenu et de façon de travailler. Et que quand on nous diminue les moyens pendant 15 ans, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on ne peut plus faire le travail, quoi.
On parlait de formation initiale tout à l'heure. Bon, il ne faut quand même pas oublier que les deux derniers ministres, que ce soit Darcos ou Châtel, ont quand même quasiment fait disparaître la formation initiale des enseignants. On avait donc des collègues qui arrivaient se retrouvaient à une rentrée scolaire face à des élèves sans jamais avoir fait une seule journée de stage en classe. Donc c'est quand même à croire que le métier d'enseignant serait le seul métier qui ne s'apprend pas. Or nous considérons au contraire que le métier d'enseignant il s'apprend comme les autres. Il y a tout le volet pédagogique dont parlait Nicolas tout à l'heure. Ça certes c'est important. Nous, on n'est pas pour privilégier les connaissances au détriment de la pédagogie. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux. Les enseignants sont maintenant recrutés au niveau Master 2. Donc, au niveau de connaissances, on peut penser qu'ils sont armés.
De base,
mais il y a aussi tout le volet pédagogique qui est pour nous fondamental. On est des professionnels de l'éducation.
Voilà.
Oui, c'est pas parce qu'on est compétent dans une matière que on sait forcément l'enseigner.
On peut maîtriser le contenu sans forcément être capable de le faire passer. C'est ça qui devrait être le...
C'est pas forcément une tête pleine qui nous intéresse. Bon, ça a été souvent redit. Mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'on comprenne bien qu'on peut être ingénieur, par exemple, en électricité, ingénieur un peu dans tous les domaines. Ça a des conséquences sur la société. On ne va pas avoir une ligne à haute tension bien installée, etc. Mais c'est réparable. Un enfant, quand on l'a éduqué ou si on l'éduque mal, surtout sur les pré-apprentissages, les apprentissages fondamentaux comme la lecture, l'écriture, etc., tous ces fondamentaux, si c'est mal fait ou si c'est partiellement fait parce qu'on ne maîtrise pas ou parce qu'on n'a pas été bien formé. Ce sont les enfants de demain qui vont créer les entreprises de demain, qui vont prendre des responsabilités dans les collectivités, au Sénat, etc. etc. C'est notre avenir de demain qu'on hypothèque et qu'on n'a pas le droit de se tromper. S'il y a un domaine, il y a plusieurs domaines dans lesquels on n'a pas le droit de se tromper. Il y en a en tout cas un où c'est très clair, c'est l'éducation. Et un autre domaine aussi, c'est la santé, hein, quand on opère quelqu'un. Mais c'est vrai que dans ces deux domaines, alors on voit que dans le domaine de la santé, les gens ils font 8 ans d'études, 10 ans d'études, c'est des grands professionnels, et que là, on a mis la barre extrêmement haute. Dans l'éducation, non, on a fait depuis 15 ans, on a pris avec un concours qui correspond pas grand-chose, je pense. Moi, je l'ai passé maintenant, il y a pas mal d'années, mais franchement, ça, on ne peut pas continuer à travailler comme ça dans le monde de l'éducation. Ce n'est pas possible. La réforme, elle est essentielle. Tout le monde est d'accord pour le dire. On a fait ce constat-là, ça fait de très nombreuses années. Maintenant, il faut passer au concret, faire de nos enseignants des gens de grande, grande qualité avec une très bonne formation. C'est indispensable pour réformer l'école.
Bien. Est-ce que vous avez un message à rajouter ?
Non, mais bon, c'est... Juste pour terminer, bon, effectivement, il y a beaucoup de chantiers qui donc, se mettent en route à cette rentrée scolaire, à tous les niveaux. Nicolas l'a dit, collège, lycée, les programmes pour le primaire, un accent porté aussi volontairement de façon plus importante sur la maternelle, parce que Nicolas parlait des futurs citoyens, mais on sait quand même que la maternelle joue un rôle primordial au niveau de la scolarisation. Et après des tergiversations ces dernières années, même voire des critiques fortes, y compris de la part du ministre de l'Éducation sur la maternelle, ce gouvernement...
Même du président,
voilà,
d'ailleurs.
Ce gouvernement président. Tente effectivement de relancer les choses au niveau de la maternelle. Et pour nous, c'est un élément extrêmement positif.
Alors dire peut-être aussi qu'on a prévu sur 48FM d'avoir deux moments consacrés plus spécifiquement à la réforme des rythmes scolaires qui concerne concrètement ces quatre villes et villages de Lozère. Donc là, courant octobre, avec une première invitation avec madame l'inspectrice d'académie, plus bien sûr ceux qui voudront participer à ce tour de table, faire une évaluation de ce qui s'est mis en œuvre, comment ça se passe, voilà, oui. pas de langue de bois, dire vraiment les choses, que ce n'est pas une réforme qui dépend simplement de l'éducation nationale, ça dépend aussi des collectivités locales, des associations et des parents d'élèves. Et pour une fois, peut-être, ils ont aussi leur mot à dire, mais aussi à s'investir dans l'école, parce qu'on assiste aussi à ça, notamment sur les sorties scolaires, un désengagement des parents,
voilà,
là où on en a besoin.
C'est un moyen de remettre l'école au cœur de la société. Je crois que je disais tout à l'heure, c'est important, c'est aussi un moyen de remettre l'école au cœur de la société.
Voilà, un sujet à suivre, on l'a bien compris. On reviendra au long de l'année sur ce sujet de l'éducation dans ce mag de 48FM. Alors on va faire une deuxième pause musicale et cette fois-ci c'est avec Adèle.
I'm so confused.
48 FM Le Mag.
Et on se retrouve en direct pour ce mag de 48 FM, bien entendu. Et on va lancer une proposition. Vous aviez l'habitude de jouer avec nous. Alors, vous avez le droit de nous dire qui sont l'un des trois invités d'aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler en répondant à cette question. Citez le nom de l'un des trois invités d'aujourd'hui. C'est au 04 66 31 59 68. Nous avons notre standardiste qui est prêt. Voilà, et vous pouvez gagner deux places pour le concert de l'Orchestre Philharmonique de Montpellier au théâtre ce samedi, c'est ça ?
Voilà. Tout à fait. Ouais.
Donc 04 66 31 59 68, n'hésitez pas à appeler pour gagner des places. On passe à la partie 3 de notre émission avec Laurent Crozat de l'association Lozérienne pour l'urgence médicale et la permanence des soins. Alors ça donne déjà un peu le cadre de cette association, mais peut-être que tu peux nous présenter quelles sont les missions de l'ALUMS.
Alors l'ALUMS, qui est une association typiquement uniquement lozérienne, qui a été créée en 2002, en fait travaille essentiellement avec des médecins sur divers projets que sont l'urgence médicale, l'urgence préhospitalière, que sont la permanence des soins, j'aime pas trop ce mot permanence des soins, je préfère la garde médicale, que sont les maisons de santé, dont on voit un petit peu fleurir le paysage lozérien ces dernières années. On accompagne aussi divers projets sur la télémédecine, etc. Donc on est, on va dire, pluri-projet, on a beaucoup de sollicitations de la part de nos médecins, on commence à se faire connaître un petit peu aussi au niveau régional, bien sûr, mais au niveau national. Il faut savoir qu'on est la seule association de France à proposer ces multi-projets. Et puis, c'est un grand engouement. Maintenant, comme toute association, on est loi 1901, on connaît nos difficultés. On essaye de suivre les politiques nationales qui ne sont pas toujours évidentes. Et puis, c'est essayer de rassembler les mots qui ont été difficiles pendant ces plusieurs années de rapprocher la médecine libérale de la médecine hospitalière.
Alors pourquoi avoir fait créé une association ? Parce que tout ça, ça se fait pas dans le cadre médical actuel ?
Alors, disons qu'on a chaque secteur qui est bien encadré. Nous, on a cette particularité d'être sur un territoire rural. Ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Parce que chaque spécialité, en fait, reste sur son domaine. Nous, pourquoi ? Parce qu'aussi, on s'est trouvé, et certains médecins ont pu réfléchir en amont, ils se retrouvent en difficulté à dire « Je suis sur un territoire isolé, il y a des urgences, je ne suis pas formé à l'urgence, quelles vont être les méthodes pour pouvoir, moi, pallier à ce manquement ?» L'idée de s'associer, l'idée de se former ensemble a apporté une solution. Voilà. Et on est devenu le seul réseau de France à pouvoir proposer des médecins correspondants SAMU, qui sont nos mêmes médecins libéraux, ceux qu'on retrouve dans nos cabinets, qui peuvent intervenir à tout moment maintenant en Lozère. Voilà, c'est une des particularités. Pourquoi se regrouper aussi et réfléchir sur des solutions, on va dire, communes ? C'est parce qu'on est face à une pénurie de médecins, et donc, plus on s'organise, mieux on arrive à trouver des solutions pour essayer de pallier à ce manquement.
Donc ça, c'est des solutions qu'on propose aux particuliers ou aux gens qui ont des besoins. Ou est-ce que c'est une solution qu'on propose à des médecins ? À qui s'adresse cette association ?
Alors, elle s'adresse essentiellement aux médecins, effectivement, pour pouvoir leur proposer des solutions. Mais on s'ouvre sur la partie, on va dire, extérieure, sur le public, entre autres en proposant un numéro d'appel unique pour pouvoir joindre un médecin le soir, le week-end.
La permanence des soins, c'est ce qu'on appelle la permanence des soins.
C'est ce qu'on appelle la permanence des soins. Je reviens sur ce mot qui est particulier, parce que permanence, dans beaucoup d'esprits, c'est d'avoir une présence, en fait. La permanence des soins dans le milieu médical, c'est la garde médicale. Voilà, donc c'est toute une...
Donc la garde, en fait, c'est les amplitudes horaires que font les médecins pour qu'ils soient joignables en cas de problème.
Exactement, c'est d'avoir cette organisation qui permet d'avoir un médecin après 20h, en soirée, jusqu'à 8h du matin.
Est-ce que les gens, ils font comment, normalement ?
Comment ça marche ? On va parler du dispositif en Lozère. Ouais. Voilà.
Comment ça marche ? En fait, on diffuse un numéro, qui est un numéro à 10 chiffres, qui permet d'avoir et d'accéder à une personne qui va vous conseiller, qui va vous orienter vers un médecin.
Qui fait un diagnostic, c'est ça déjà ?
Qui fait déjà une réponse téléphonique. Ouais. Une réponse téléphonique, on va dire, sur...
Bonjour madame, qu'est-ce qui vous arrive ?
Exactement, bonjour madame, qu'est-ce qui
vous
arrive ?
Vous avez l'œil gauche qui vous gratte, ouais, c'est normal, vous avez une poutre dedans.
c'est un petit peu ça. Ou on part sur un système, on enclenche tout le réseau d'urgence, du SAMU qui va faire intervenir éventuellement ce médecin qui est
donc
médecin.
Donc n'enlevez pas la poutre, madame, on appelle
on
le SAMU.
On s'occupe de vous.
On s'occupe de vous.
Voilà, et c'est, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les mêmes lignes. Donc les correspondants sont bien sûr au courant de savoir si c'est une urgence ou si ça traite du domaine plutôt médical. Patienter pour aller voir le médecin le lendemain, avoir un petit conseil téléphonique par rapport au petit qui a sa fièvre, etc., etc. On n'a pas... En fait, on ne se coupe pas le milieu médical du milieu de l'urgence. C'est ce qu'il faut savoir à partir de ce numéro.
Alors, et ce numéro, on va le donner. Voilà.
Prenez le numéro vos, à 10 chiffres.
Prenez vos stylos, parce que justement, il ne faut pas faire le 15. Hein.
Quand il ne s'agit pas d'une urgence, ne faites pas le 15. Vous allez saturer les lignes de l'urgence. Faites le 0810 604 608, voilà, qui est le numéro pour la permanence des soins sur le département. Ça marche aussi pour un dentiste.
On le redira à la fin. Hein,
alors 0810 604
608.
608, c'est facile à retenir.
Ouais, on a essayé de travailler.
Une 604, une 608.
Et on peut le mettre dans son téléphone portable.
Exactement.
L'enregistrer.
Vous commencez à croiser des affiches un petit peu chez vos professionnels, dans les professionnels de santé, dans les cabinets. Il y a un flash code. Vous pouvez flasher et ça enregistre automatiquement sur votre portable le numéro. Voilà. C'est important de connaître ce numéro aussi. Ça peut être du conseil médical le soir. C'est pas forcément.
Gratuit.
Et c'est gratuit. Au prix d'un appel local.
D'accord. Le 0810, oui, c'est ça.
Voilà. On n'a pas pu avoir un numéro.
Qui est-ce qui nous répond en fait ? C'est un médecin ?
Alors, vous avez toute une organisation.
Non, c'est une secrétaire qui comprend.
Voilà. Okay. Vous avez un permanencier, un parme dans le milieu qui est, lui, tout le temps en direct avec son médecin dit régulateur, qui va vous basculer vers le médecin de garde ou qui va vous basculer vers le système d'urgence, donc avec le départ des SAMU, le départ des médecins correspondants SAMU. C'est toute une organisation qui est ficelée, voilà. Il faut savoir que vous n'allez pas tomber sur une cabane avec...
Gérard, elle dit qu'elle perd beaucoup de sang. Qu'est-ce que je lui dis ? Qu'est-ce que je lui dis ? Madame, c'est pas grave. Vous mettez un torchon dessus, on arrive.
Voilà, donc c'est effectivement la plateforme téléphonique qui gère les urgences, qui aussi gère en deuxième rideau d'appels téléphoniques ces appels sur la permanence des soins. Alors, donc on a dit qu'on peut l'utiliser, donc c'est le soir après 20h.
Tout à fait.
C'est que le soir après 20h.
Et le week-end.
Le week-end et les jours fériés.
D'accord. Et donc on a accès aussi aux gardes de dentistes, c'est ça ?
Voilà, puisque les dentistes de Lozère ont souhaité se joindre à ce numéro pour pouvoir être joints en cas de rage de dents, effectivement,
le week-end. Ça peut être très très nécessaire.
Ça peut être très très nécessaire.
Et les ostéopathes, non ?
Non. Non, pas les kinés, ni les ostéopathes. On réfléchit.
Les ophtalmos.
On réfléchit. Ils vont vous orienter vers les ophtalmos, effectivement, si vous composez ce numéro, si vous avez un problème à l'œil. Maintenant, on réfléchit aussi avec peut-être les kinés, pour la kiné respiratoire en hiver, pour les enfants, pour les bébés, à l'utilisation de ce numéro pour pouvoir être mieux orienté.
Et les ostéos, non. Enfin, j'insiste parce que le gars qui se bloque un dimanche, il va être en congé le lundi, alors que bon.
Il n'y a pas de garde ostéo, il y a une garde de kiné, mais il n'y a pas de garde ostéo à ma connaissance.
D'accord. Voilà.
Et alors, est-ce que ça marche aussi pour les pharmacies ?
Et non, ça ne marche pas pour les pharmacies. Alors, pour connaître la pharmacie de garde, vous avez notre confrère qui est la Lozère Nouvelle qui indique les pharmacies de garde sur les différents secteurs.
Et si on n'est pas abonné ?
Et si on n'est pas abonné, vous pouvez quand même appeler ce numéro. Ils vont vous orienter vers la pharmacie de garde.
Voilà. On peut aussi aller vers sa pharmacie la plus proche.
Et il y a toujours le petit encart sur la porte. Voilà. Aussi. Okay, aussi.
Bien, alors, donc ça, c'est le numéro Azure pour la permanence de soins.
C'est on compliqué. Le répète, 0810 604 608.
Voilà, c'est bien retenu.
Finalement, ouais, finalement c'est facile. Ouais.
On le redirait
répétez après moi.
Ah, c'est le côté
derrière vos postes, répétez après moi.
C'est le côté pédagogie. Hein. On y reviendra tout à l'heure.
Vous voyez que c'est un métier, ça s'apprend. Ouais, ouais.
Alors après, tu disais d'autres actions plutôt sur les questions de ce qu'on appelle de démographie médicale. Et donc, essayer de faire venir des médecins, des jeunes médecins, des futurs médecins en Lausanne.
Voilà. Ouais, ça c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est face à une démographie médicale au niveau national qui est très compliquée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pourtant jamais eu autant de médecins sur la France, il faut le savoir. Mais les médecins sont tous basés un petit peu dans les centres-villes et sur le littoral. Donc c'est un petit peu difficile.
Et pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi.
Parce que la vie est peut-être...
plus agréable, c'est
plus agréable, enfin, à leur vision. Moi, je me plais énormément à Lausanne. Je pense que
plus une méconnaissance. Hein,
exactement. Donc, une des actions que l'on fait au niveau de l'association, c'est d'accompagner les jeunes médecins, les internes, ceux qui sont en train de terminer leurs études de médecine, de les accompagner un petit peu sur l'installation future sur le département. Pour ça, eh bien, on les invite à nos formations, puisqu'on forme nos médecins dans la médecine d'urgence. On les invite à nos formations, et puis, eh bien, depuis plus d'un an, on les accompagne directement à la rencontre des médecins sur le territoire, où les médecins vont nous parler de leur exercice et de leur projet. Le projet associatif, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que les nouvelles générations veulent surtout ne pas se trouver seules, isolées dans un cabinet, dans un petit village. Ils veulent travailler en association. En association avec des kinés, tout un réseau de professionnels externes. Exactement, ça peut... Oh, il y a une polémique là-dessus, je crois. on a effectivement besoin, et ils ont besoin de travailler avec des confrères. Donc essayer de faire du regroupement de médecins. Et pour ça, on a des outils. On a des maisons de santé qui fleurissent un petit peu partout sur le territoire.
Des cabinets médicaux, c'est ça ?
Des cabinets médicaux regroupés, où les médecins vont pouvoir partager différents avis, se faire aider...
Et avoir du secrétariat,
se former aussi, puisque la médecine, c'est une science qui évolue. Hein. C'est pas
figé. La formation continue.
Donc pouvoir se faire remplacer, etc. Donc à la LUMS, on essaye de mettre aussi tout un dispositif pour pouvoir aider les médecins à se faire remplacer, etc. Voilà. On accompagne vraiment les médecins depuis la base, l'avant l'installation, pendant l'installation, hein, pendant leur exercice sur les formations et après. Voilà, pour essayer de passer la main aussi à ces futures générations.
Alors récemment, vous avez accompagné un groupe de jeunes engagés auprès du Conseil général par rapport aux bourses d'engagement. Donc, ils sont financés pendant leurs études et ensuite, ils s'engagent à travailler pendant 5 ans en Lozère. Et donc, vous leur avez fait découvrir la Lozère. Qu'est-ce que vous leur avez montré de beau ?
Ce que je leur ai montré de beau, en plus, il faisait très beau, donc c'était très agréable. On est parti du côté de Langogne, du côté de Saint-Alban, Saint-Chély, du côté de Marvejols pour la première journée. On a été rencontrer les installations du côté de Langogne, la maison de santé, rencontrer l'équipe pluriprofessionnelle, comment est-ce qu'ils travaillent.
Avec un projet de santé en
plus. Avec un projet de santé, dans quelle mesure ils se verraient engagés dans cette équipe, etc. Sur Saint-Chély d'Apché, on est parti à la rencontre aussi des médecins. Discuter des projets, du territoire, la façon dont ils ont de s'organiser, etc. Et sur Marvejols, on a rencontré deux jeunes médecins qui viennent de s'installer aussi, qui ont pu parler de cette vision de médecins jeunes qui travaillent sur le département et du projet, entre autres, de médecins de santé. La deuxième journée, on a été à Florac, à Meruès, à Saint-Enémy et à La Canourgue, là aussi pour rencontrer les professionnels et discuter des différents projets. Voilà. Et en fait... pour pouvoir donner aussi un petit peu plus.
Et tout ça à base de gastronomie quand même, non ? Vous faites peur.
Bien sûr, bien sûr. Et puis de découverte des paysages, puisqu'on a emprunté les routes quand même superbes du département. Mais c'était vraiment partir à la rencontre et discuter de leurs projets professionnels. Voilà, elles ont envie, c'est uniquement des femmes. Il faut savoir que 70% de la population
médicale,
ce sont des femmes.
Maintenant, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que les hommes se sont peut-être orientés sur d'autres... profession, plus technique, plus d'ingénierie. Plus de chirurgie, mais on a une... Même dans les... dans les spécialisations, on a quand même une part plus importante de la population féminine. Quoi. Ce qui est bien aussi, et ce qui amène aussi à une modification de la façon de travailler la médecine. Fini le temps où le médecin homme était aussi maire du village, était joignable 24/24, faisait beaucoup de choses dans le village.
Elles ont une vie de famille et du coup c'est plus compliqué.
C'est un petit peu plus compliqué à organiser Et c'est là où on essaie d'apporter.
Vous leur avez dit quand même que pour 40 mètres carrés à Montpellier, ici, elles ont 200 mètres carrés avec vue sur les gorges du Tarn.
Mais bien sûr, avec vue sur les gorges du Tarn.
Et que pour leurs enfants, c'est fabuleux.
Et pour au niveau de l'éducation, on y revient.
Exactement, les rythmes scolaires mis en œuvre à Mende, etc.
La qualité des services publics.
La programmation de la ville qui est extraordinaire, la gratuité des spectacles.
La saison culturelle qui est exceptionnelle aussi. Bien sûr qu'on leur a parlé.
Mais c'est plus value tout ça. Hein.
Mais elles en sont conscientes. Elles en sont conscientes. Et c'est là où elles disaient, effectivement, moi, quand j'ouvre les fenêtres de mon cabinet, en Lozère, on a l'impression d'être pas en vacances, mais au moins de se sentir apaisé et d'être dans un environnement ressourcé. Très important. Quoi. Voilà, c'est très, très important, cette qualité de vie qu'elles veulent retrouver. Effectivement, ce n'est pas en centre-ville que l'on peut vivre ça. Et ça fait partie des choses. Alors, l'idée de les aider dans cet accompagnement, c'est de les insérer dans ces équipes pour qu'elles puissent aussi prendre ces dispositions de pouvoir peut-être moins travailler, se faire remplacer plus fréquemment, etc. Voilà, c'est important pour nous, Lozériens aussi, de se retrouver face à une médecine.
Finalement, ce que vous nous dites, c'est de retrouver peut-être ce qu'il n'y avait pas avant, de la solidarité entre médecins. Exactement. De reconstruire une espèce de coopération et de corporation qui va s'entraider, qui va se donner les moyens de bien vivre. Exactement. Un peu partout sur le territoire français.
Exactement. Et aussi d'impliquer les élus sur ces nouvelles dispositions et d'exercices.
Ouais, mais je crois que là-dessus, les élus sont en général très alertes et très favorables. Enfin, d'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, beaucoup d'élus proposent à la fois des hébergements, une prise en charge, un encadrement et même de créer des cabinets. Beaucoup ont investi aussi dedans.
Ils investissent énormément dedans, effectivement. Et c'est un point positif, moi, que je vais rencontrer les internes sur différents congrès. Que je souligne, c'est pas que les médecins se débrouillent tout seuls. Voilà, ils ont le soutien
de la population,
des élus
et des élus. Ouais,
voilà. Et donc ça c'est très très important. Voilà. Et ça et puis le conseil général qui fait un accompagnement aussi avec des familles, hein, puisque le médecin généralement ne vient pas tout seul. Accompagnement des familles, ce qui est très très important. Quoi.
Alors tu nous disais, l'idée, c'est de les séduire aussi et justement aussi de les insérer un peu dans ce milieu professionnel. Et vous avez aussi un dispositif assez original en partenariat avec l'ARS.
Voilà. Alors l'ARS qui nous soutient beaucoup sur nos projets depuis de nombreuses années parce qu'on a fait preuve de leur efficacité. En fait, on propose aux étudiants de venir faire des remplacements les week-ends sur certains secteurs qui se retrouvent en difficulté pour la permanence de soins, pour la prise de garde, parce que manque de médecins, etc. Nous, on propose aux internes de les encadrer, de les financer et de les loger pour venir faire ces remplacements. Alors, on y trouve une double utilité, c'est que, en fait, on montre vraiment l'exercice, comment il se pratique, et puis on les insère dans ces équipes. Voilà. Et le retour, c'est qu'on a toujours une couverture médicale proposée le week-end.
Voilà. Sachant qu'ils ont quand même cette compétence-là, puisqu'à partir du moment où ils ont fait le stage chez le praticien, ils sont habilités
à faire des remplacements.
À partir de quelle année d'études ?
Alors, c'est généralement à partir de leur 6e, 7e année de médecine.
Ils s'y connaissent un peu quand même.
Ah, ils ont commencé. Ouais. Et puis, ils ont déjà fait pour la plupart des stages dans des CHU.
Ah oui, c'est pas comme les enseignants. Ouais.
Voilà, ils sont pas largués comme ça. Ouais. Non.
Voyez un peu le boulot qu'ils font.
Ils ont une formation initiale. Ouais. Ils ont des années d'études et puis ils ont une formation de stage.
Pratique déjà.
Ils ont pratique. Beaucoup de pratique ouais.
Il faut savoir que leurs 3 dernières années sont coupées en semestre et c'est pour la plupart que des stages. Voilà, les 3 dernières années
juste en aparté, la formation en France sur la médecine est considérée comment en Europe ? Alors, comme une bonne formation ? Est-ce qu'on a de très bons médecins en France ? Ou est-ce que ce n'est pas parmi les meilleurs ?
On a de très bons médecins en France, il faut le dire. On a une bonne formation en France. Ce qui est un petit peu reproché, c'est qu'elle est un petit peu hospitalo-centrée. Voilà, cette formation.
Surtout pour
l'hôpital. Hospitalier. Voilà.
Et ce qui est sans doute peut-être une difficulté pour les zones rurales, au final.
Exactement. Parce que dans nos zones rurales, on ne propose pas...
Si tu n'as pas d'hôpital, c'est sûr qu'à force de les fermer...
Oui, non, mais en plus, on parle vraiment du
CHU. Et en fait, ce que veulent les nouveaux praticiens, c'est aussi de retrouver un petit peu cette ambiance. Ils ont l'habitude de travailler dans une équipe, avec des infirmières, avec tout un personnel dédié aux soins. c'est sûr que après avoir fait un seul stage chez le praticien, de se retrouver en zone rurale dans un cabinet isolé, c'est pas ce dont ils ont envie. Donc à nous de montrer que ce n'est pas le cas, à nous de montrer et de nous organiser et de faire en sorte que leur pratique soit le mieux possible pour en faire venir un maximum de médecins sur le département, bien sûr.
Alors moi, ma question n'était pas trop innocente, c'est que on a le sentiment aujourd'hui que dans les zones rurales, beaucoup de médecins viennent de l'étranger, enfin d'Europe, hein, Europe de l'Est, pour occuper ces postes, alors avec des compétences, hein, je ne remets pas du tout ça en question, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a essayé de régler le problème en proposant à l'étranger, donc il y a eu pas mal de reportages qu'on a pu voir sur Arte ou à la télévision, hein, qui font ces propositions-là à des médecins qui viennent des pays étrangers où ils ne vivent pas très bien, leur proposer des conditions.
Voilà. Alors, il faut savoir qu'effectivement, même à Lozère, on a des expériences malheureuses et très heureuses avec des médecins, entre autres roumains. Il faut savoir que... Alors, on peut être un petit peu sceptique sur leur venue. Ils ont tout à fait les compétences, hein, généralement. La barrière de la langue... Les organismes qui font venir ces médecins essayent de les enlever. Moi, j'étais un petit peu sceptique par rapport à leur venue, plus pour l'idée que, en fait, on dépeuple aussi leur territoire. Et voilà, on cherche en fait.
C'est pas prendre. Du développement durable.
C'est pas non. Mais voilà. on dépeuple un autre territoire pour venir peupler nos campagnes. Est-ce que c'est pas finalement reporter le problème? Est-ce que il y a pas plutôt une réflexion sur la façon dont travaillent les médecins? Je veux, par exemple, un médecin qui se retrouve seul, isolé dans un cabinet, la plupart disent, ben moi je vais consacrer 20 à 30% de mon temps de travail à faire de l'administratif. Un médecin, il est formé pendant 9 ans, au minimum pendant 9 ans, à se soigner, à prodiguer du soin. C'est sûr que si on lui enlève une journée par semaine, vous vous rendez compte, une journée par semaine,
oui, c'est 25 à 30 personnes qui...
C'est 25 à 30 personnes qui pourraient faire de, enfin, qui pourraient travailler.
Qui pourraient être soignés,
ouais. Voilà. Et finalement, ben, c'est un petit peu ce même nombre qu'on retrouve sur le manquement de médecins en Lozère. Il manquerait entre 10 et 15 médecins sur le département pour couvrir suffisamment. Voilà. Réfléchissons à ça d'abord, je pense. Avant de...
Donc ça, c'est aussi ce que propose votre association.
C'est ce que propose notre réflexion. Association.
Au travers des projets territoriaux de santé.
Santé, exactement, avec les médecins, etc.
En liaison avec les...
Alors, dans nos propos, il n'est pas question de remettre en question, justement, la qualité des médecins qui viennent de l'étranger. Tout, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Dire...
C'est qui viennent de l'étranger ou qui viennent
ou
d'ailleurs.
Qui viennent d'ailleurs, c'est pareil. Quoi.
C'est essayer de les insérer dans ce système-là, voilà, et de les organiser, de les aider à s'organiser surtout, de les aider à s'organiser pour proposer encore une médecine.
D'accord. Ouais, peut-être une dernière question par rapport à votre association. Comment vous voyez la fusion avec l'hôpital, entre l'hôpital de Mende et... Enfin, est-ce que ça peut être une bonne chose? Est-ce qu'on peut trouver une dynamique justement pour rassembler des médecins et des compétences et pas multiplier tout ça et faire en sorte que d'autres postes se créent?
Disons que je trouve qu'il peut y avoir de paradoxes, mais plus on est très peu nombreux en Lozère. Donc autant s'associer pour proposer des services de qualité, encore une fois. Voilà, il y a un plateau technique très conséquent sur Marvejol. Il y en a encore un petit peu plus important du côté de Mende. Si oui, on veut faire
700 personnes quand même, voilà. Sûrement. Hein.
Si on veut faire venir et faire venir aussi des médecins, parce qu'il faut pas croire, même au niveau hospitalier, hein, on manque de médecins.
Oui, sûrement. C'est
compliqué de faire venir des médecins. Donc, à nous de proposer peut-être un gros plateau technique lozérien en proposant différentes compétences sur différents sites. Mais ce sera plus
bien
facile.
Bien achalandé, voilà. Avec des bonnes compétences techniques pour intéresser les gens.
Exactement, parce qu'on est face aussi à une démographie médicale, les médecins sont de plus en plus vieux. Donc il faut essayer de faire venir de nouveaux médecins pour nous voulez.
Bon, ben l'appel est lancé.
Voilà, bien sûr.
Et merci en tout cas pour tout ce travail. Hein.
Prochaine action pour aller séduire des jeunes étudiants en médecine à Brest, si
oui,
les infos sont justes.
Voilà, à Brest, du côté de Brest, donc on voyage beaucoup. Une première action, peut-être plus proche, qui est début octobre, où je vais à la faculté de médecine de Montpellier convaincre les médecins, les jeunes internes, de venir faire leur stage sur le département. Et puis après, oui, effectivement, prochaine échéance du côté de Brest.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, pour cet engagement et ce travail.
On retrouve le site internet de l'association www.alumps.fr. Et on rappelle le numéro, Nicolas.
0810-604-608.
Eh bien, c'est parfait.
Ouais, c'est bon, il l'a retenu. C'est impeccable.
Moi, je vous appelle dès ce soir.
Petite migraine.
Après 20h, bien sûr. Merci en tout cas.
Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, on va juste vous annoncer un petit changement sur la grille de 48FM. Alors, je vous avais fait une promesse la semaine dernière de reprendre le classique. Et puis, finalement, entre-temps, on a eu la confirmation.
La musique classique. Hein, pas
Oui, oui, la musique classique, pas la danse.
Quoique.
tu serais splendide.
Je pense aussi.
Je vais déjà faire le 0810-604-608 parce que ça va pas le faire.
Donc, voilà. Donc, on change un petit peu. On retrouvera donc le jazz maintenant le dimanche soir. Et on vous propose une toute nouvelle tranche de 20h à 21h le vendredi avec Olivier Hall, que vous avez déjà entendu à plusieurs occasions sur notre antenne. C'est le programmateur de Festivalier, qui gère aussi l'association Les Fadarelles à Langogne, la saison culturelle de Langogne. Et comme vous le savez, avec Festivalier, il a une sélection de chansons françaises.
Parce qu'il reçoit énormément de propositions, donc voilà. C'était intéressant de l'associer.
Et donc, il nous propose maintenant, toutes les semaines, de 20h à 21h le vendredi, une heure de musique française.
Chanson française, voilà. Rock, pop. Voilà.
Et qu'on entendra deux dimanches par mois également. Alors, ce ne sera pas de la rediffusion, ce sera aussi une tranche comme ça, puisque vous aurez des morceaux. Hein, c'est pas une émission en tant que telle, c'est une sélection musicale à ce moment-là. Et donc, ce sera en alternance sur cette tranche du dimanche 16h, avec bien sûr les rediffusions d'Orinoco et de Rock'n'Roll Diaries. Donc voilà, ce nouveau rendez-vous le vendredi de 20h à 21h de la musique française avec Olivier, et puis donc le jazz qu'on retrouvera désormais le dimanche de 20h à 21h pour avoir une fin de
très
de
bien
semaine.
Guillaume, voilà. Cette programmation devient de plus en plus riche et intéressante.
Voilà, et donc comme on vous l'a dit la semaine dernière, n'hésitez pas à transmettre aussi vos projets d'émissions, vos envies de participer à la radio. On se donne, on va dire, jusqu'au milieu du mois d'octobre pour analyser un petit peu tout ça et construire et puis une nouvelle grille à partir de novembre. On rajoutera des éléments dans la grille.
Et aussi, on a proposé d'accueillir aussi un petit peu de public. Alors, on a quelques chaises dans ce petit studio. Mais pour ceux que ça intéresse, de voir une émission en direct, se familiariser avec la radio et puis après, pourquoi pas, de devenir des co-animateurs de certaines émissions.
Expérience très intéressante.
Voilà, donc vous pouvez venir les mardis, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de place, mais voilà, deux,
on
trois.
On peut accueillir deux, trois personnes. Pas de problème.
Et je vous rappelle que vous pouvez toujours appeler au 04 66 31 59 68 pour gagner des places pour le concert de samedi au théâtre. Voilà, c'en est fini pour ce 42e numéro du MAG. À la semaine prochaine.
Pour le 43e.
Et voilà. Bonne journée.
Merci à tous. Oh, oh.